Vous êtes sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver après cette soirée foot sur RTL. On va laisser retomber la pression, respirer profondément et prendre le temps de se parler. Exceptionnellement, l'antenne d'RTL est à vous ce soir jusqu'à 1h du matin. Caroline et Paul sont là, prêts à vous accueillir et vous guider au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS. Vous tapez les trois lettres d'RTL au début de votre message, vous l'envoyez au 64 900, coût de l'envoi 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur Facebook, RTL-Parlons-nous. C'est Marc Bisset à la réalisation de l'émission 09 69 39 10 11. On vous attend. Bonsoir Séverine.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Alors Séverine...
Je suis contente de vous avoir, ça fait la deuxième fois.
C'est vrai, on s'est déjà parlé.
Je vous avais appelé il y a à peu près un an et demi, après le décès de mon mari.
Ah, d'accord, vous veniez de perdre votre mari.
Oui, qui était parti d'un cancer cérébral.
Ouf, oui.
Voilà, et puis là, je vous appelle parce que j'ai un petit embêtement.
Enfin, oui.
Voilà, suite avec mes filles.
Qu'est-ce qui se passe avec vos filles?
Eh bien, disons que je suis toujours dans la maison.
Oui, d'accord.
Mais elle est grande et moi j'ai 63 ans, mais j'ai des problèmes. J'ai eu un accident il y a 20 ans, donc j'ai quand même des problèmes pour l'entretenir.
Ben oui.
Il y a des travaux à faire, tout
ça.
Oui.
Donc
je leur avais parlé qu'il fallait que je la vende.
D'accord.
Au mois de janvier, je leur avais parlé de ça.
Oui.
Ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait les démarches nécessaires.
Oui.
Et puis j'ai fait venir l'agent immobilier et j'ai signé la promesse de vente.
Ah, vous aviez, d'accord.
Oui,
bon.
J'ai signé la promesse de vente. Et puis, il fallait la procuration de mes filles.
Pourquoi?
Parce qu'elles sont héritières. Mon mari et moi, on avait fait une donation il y a quelques années.
D'accord, je
comprends. Donc elles héritent de la partie de leur père.
Oui, donc il faut leur accord.
Oui, il faut leur accord.
Oui. Mais elle vous l'avait donné, puisqu'elle vous avait dit « tu fais ce que tu veux ».
Oui, mais au moment de signer tout ça, elles ont refusé.
Oh non.
Si, ça fait
elles ont fois. Attendu que vous ayez une promesse de vente pour finalement s'y opposer.
Oui. Alors, ce qui fait que ça fait deux fois qu'elles me disent non.
Mais pourquoi elles bloquent au dernier moment? Qu'est-ce qui se passe?
À vrai dire, j'en sais rien, parce qu'elles veulent que j'achète. Elles veulent que je vende et que j'achète.
Que vous achetiez
une autre maison, une plus petite, ou un appartement. Parce que moi, je voulais partir en appartement, alors que j'achète un appartement.
Oui, d'accord.
Parce que sinon, si je vais louer, je vais dépenser ce que je vais toucher.
C'est ce qu'elles vous disent?
Oui.
Mais ça ne les regarde pas?
Et qu'il faut que je les garde, que je garde l'argent pour plus tard, pour aller dans la maison de retraite. Voilà. Qu'elle pense déjà en maison de retraite.
D'accord, mais je vois que vous avez 63 ans, Séverine. C'est bon, vous avez le temps d'aller en maison de retraite?
Oui, j'ai le temps d'aller en maison de retraite.
Ah oui, donc déjà, elle vous voit, elle est en maison de retraite.
Mes parents, ils sont encore là, ils ont 85 ans, ils ne sont pas en maison de retraite.
Oui,
mes
en effet.
Et moi, on s'en occupe.
Vous leur dites pas, vos filles, vous êtes bien gentilles, mais la maison de retraite, ce n'est pas pour tout de suite, j'espère.
C'est ce que je leur dis, mais elles se sont mis toutes les trois d'accord.
Ah oui.
Elles se sont passées le mot. Et puis voilà. Alors, c'est une prise de tête, avec toutes les trois.
Parce que
elles se passent le mot, et puis il y en a une qui dit non, l'autre qui dit non. Parce que, soi-disant, j'ai mal choisi le moment,
Pourquoi?
Parce que j'ai perdu le mari de ma première fille au mois de janvier.
Ah, votre gendre?
Oui.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il est décédé aussi d'un cancer.
Ah là là.
Ça faisait 4 ans qu'il était malade. Il s'avait condamné. Alors, soi-disant, j'ai mal choisi le moment.
C'est votre fille qui vous dit ça? Celle qui vient de perdre son mari?
Non, c'est sa sœur.
Et pourquoi, enfin, comment elle, qu'est-ce qu'elle dit autour de ça? Pourquoi le moment le...
Parce que je suis égoïste et j'aurais pu attendre un peu plus. Mais ça, bon, ça faisait comme un an et demi que mon mari était parti, j'attendais. Mais
vous aussi, vous avez perdu votre mari, oui,
oui, enfin leur père. Oui, j'ai perdu mon mari et puis je voulais déjà vendre avant.
Oui. Mais mari. Surtout, je ne vois pas, enfin, malheureusement, le fait de vendre, ça ne changerait rien à la situation de votre fille qui vient de évidemment. Perdre son mari. C'est pourquoi c'est la maison familiale, c'est là où elles ont grandi.
Et ben voilà. Ah, même mes petites filles disent, c'est notre maison familiale.
Oui, d'accord.
Bon, quand il y avait de Noël, Pâques, les fêtes, oui. anniversaires, c'était toujours chez nous que ça se passait.
Et oui, d'accord. Oui, donc il y a une dimension très affective dans cette maison.
C'est exact. Mais mon mari, il était fatigué déjà. Il ne savait pas qu'il était malade, mais il était très fatigué. Il disait, je commence à fatiguer avec tout ça, parce qu'on a quatre petites filles.
Oui.
Il va falloir que ça s'arrête, parce que moi, j'en peux plus.
Et oui, le pauvre, il...
Oui. Et puis, en trois mois, il est parti. Hein.
Oh là là, oui.
Voilà.
Oui.
Bah, ça s'était bien passé. Elles sont venues, tout. Elles étaient en vacances, elles sont rentrées. Elles m'ont aidé à faire les démarches et tout. Et après, oui. elles sont rentrées chez elles.
Oui.
Elles ne s'habitent pas...
À tout près.
Ah oui, non, elles sont à 500 et quelques kilomètres. Elles n'habitent pas tout près.
Mais est-ce qu'elles viennent depuis dans cette maison? Est-ce que cet été, elles sont venues? Est-ce que...
Elles sont venues au mois de novembre.
Oui.
Avec mon gendre est venu aussi, au mois de novembre. Et puis, à Noël, il n'y en a qu'une qui est venue.
Oui, parce qu'il était malade, votre gendre.
Oui, enfin, mon gendre ne pouvait pas venir parce que là, il était en phase terminale.
Oh là là, non, c'est terrible.
Oui. Oui, c'est terrible.
Oui.
On s'est vu en visioconférence, mais c'est tout. Voilà. Et puis, au mois de janvier, il est décédé.
Mm.
Et c'est nous, on est allés là-bas, on a soutenu notre fille, ma fille, l'ai soutenue. Tout s'est bien passé. Jusque-là, au moment où, voilà... je veux partir d'ici parce que je ne peux plus, j'ai beaucoup de travaux à faire.
Et vous voudriez aller où d'ailleurs? Vous avez une idée de...
Oui, dans un appartement. Hein.
Dans un appartement.
Elles veulent que j'achète.
Et vous ne voulez pas acheter? Ça serait une sécurité finalement, si finalement avec l'argent de la vente, vous pouviez vous acheter un appartement agréable, finalement plutôt que de... Pour vous, ça serait bien d'avoir,
oui,
plutôt que d'avoir un loyer à verser.
C'est ce qu'elles me disent. Elles disent que tu vas dépenser tout l'argent dans le loyer. Et pour plus tard, tu n'auras pas d'argent pour ta retraite, pour la maison de retraite.
Remarquez, voilà. ça s'entend. Je ne parle pas de la maison de retraite. Je comprends que ça, évidemment, si elles vous mettent cet argument-là en avant, ce n'est pas très agréable à entendre. Mais c'est vrai que si vous avez, avec le... l'argent de cette vente, la possibilité de vous acheter un appartement qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, vous, bah, finalement, c'est mieux que de payer un loyer tous les mois. C'est vrai que c'est une sécurité, finalement, pour quand on avance en âge. C'est pas toujours évident d'avoir à payer un loyer.
Oui.
Ça vous dérange, vous, c'est...
Non, pas vraiment. Moi, ce que je veux, c'est... Bon, je voudrais trouver déjà... Bon, alors, si c'était... acheter.
Oui.
Pourquoi pas, s'il y a les moyens, parce qu'il faut qu'elles ont leur part.
Oui, oui.
La part de leur père. Voilà. Et puis, bon, je voudrais déjà une maison adaptée, qui soit adaptée pour plus tard. Que je puisse, si jamais j'ai un problème...
Oui. Oui, c'est bien, oui, avec
voilà.
Un ascenseur, quelque chose, enfin.
Voilà.
Et je vous comprends, parce que c'est vrai qu'un appartement, y a moins d'entretien à faire, une maison...
C'est exact, bon. Parce que la maison, je suis obligée de payer pour tondre, pour tailler les arbres. Quand j'ai quelque chose qui est en panne, je suis obligée de payer quelqu'un.
Oui.
Donc j'ai eu quand même pas mal de dépenses depuis que mon mari est parti.
Et oui, bien sûr, oui, j'imagine.
Voilà. Et puis bon, moi je suis en retraite, bon, je veux pas dire que ça peut aller, je m'en sors, comme je paye pas de loyer, je m'en sors. Mais Mais disons que non, ça ne me convient pas comme ça. C'est trop pour moi, c'est trop fatigant.
Oui, je comprends très bien. Mais par rapport à... Puisque vous aviez eu une promesse, une offre là de vente, vous avez pu voir à peu près à quel montant vous pouviez vendre la maison, la part qui vous revenait, celle qui revenait à vos filles. Avec l'idée, le montant de la part qui vous revient, vous pouvez voir, déjà regarder, un peu envisager... les appartements que vous pourriez obtenir.
Oui, c'est ce qu'elle voulait que je fasse. J'ai visité quelques-uns.
Et pourquoi vous, ça coince?
Parce qu'il y a des travaux à faire.
Ah, oui, ça je comprends. Et c'est pas possible, il y en a peut-être où vous pourriez rentrer sans trop de travaux.
Parce que si je fais des travaux, j'ai pas trop d'argent d'avance.
Non, mais enfin, peut-être que les appartements que vous avez visités, s'il y avait beaucoup de travaux à faire, je comprends que ça vous rebute.
Ah oui, okay.
Mais peut-être que, enfin, il y a peut-être d'autres, il y a certainement d'autres appartements que vous pourriez visiter où il n'y a pas tant de travaux à faire, peut-être juste un petit rafraîchissement des murs et encore, et où vous pourriez vous installer sans dépenser trop d'argent, non?
J'avais convenu avec l'agent immobilier. On avait convenu de faire...
qu'il vous fasse visiter des appartements.
Oui, voir des appartements.
Voilà, où vous n'avez pas trop de travaux à faire.
Oui.
Et après tout, si vous êtes... si vous pouvez, avec la part qui vous revient, vous acheter un appartement mignon et dont vous seriez propriétaire, c'est quand même une sécurité pour...
Je pense que...
Vous voyez, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais un loyer qui tombe tous les mois, c'est un peu lourd aussi.
Oui, c'est vrai que c'est cher, là. Surtout là où je me trouve, c'est assez cher. Parce que je ne voudrais pas rester trop loin.
D'accord, oui,
là
d'autant plus.
Là où est enterré mon mari.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Donc,
mais vous êtes déçue de la réaction de vos filles, en fait, c'est ça?
Je suis déçue, oui, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord parce que, bon, j'avais quelqu'un. Justement, on avait quelqu'un qui... On allait discuter du prix, tout ça. Bon. Et puis voilà, enfin, baisser un tout petit peu le prix parce que comme il y a quand même des travaux à faire dans la maison. Et les gens ont attendu quelques temps. Ils se sont dit, bon, on va attendre un tout petit peu, mais pas des mois et des mois.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, ils sont désistés.
Mais parce qu'à ce moment-là, vous parliez donc de plutôt trouver une location, c'est ça?
Mais moi, c'est location où... je partais pour une location même.
D'accord.
Bon. Après, elle me disait, bon, maman, c'est mieux acheter. J'ai dit,
mais elles ont raison. Enfin, sur ce plan-là, je trouve que ça se comprend. Si vous dites que vous n'avez pas une retraite très conséquente, au moins vous avez cette garantie d'avoir un toit sur la tête, quoi. Et sans vous endetter, vous voyez, il ne s'agit pas, évidemment, vous n'allez pas vous mettre dans un crédit, non. Mais au vu de ce que vous pouvez toucher, et en parlant à l'agent immobilier, dire, bon, ben voilà, avec la vente, moi, de la maison, j'aimerais pouvoir trouver un appartement avec, vous dites, quels sont vos critères.
Oui, oui, oui.
Et ça évidemment, doit pouvoir se trouver.
Bon. On en a parlé, et puis l'agent immobilier m'a contacté encore hier.
Oui.
Pour savoir alors qu'est-ce qu'on faisait.
Qu'est-ce que vous faisiez, d'accord. Ouais. Parce que là, donc, les gens se sont désistés, c'est ça?
Oui. Étant donné que j'habite à côté de l'école, c'est des gens qui ont des enfants.
Ah oui, pour eux, c'était bien.
Oui,
mais ça, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est assez... Votre maison, vous voyez, elle est au fond, elle partait assez vite. C'est un bien qui est recherché. À côté d'une école, c'est vrai que ça lui donne un plus.
Oui.
Parents qui ont des enfants, c'est formidable, il n'y a pas de trajet.
Il y a toute l'école maternelle, la petite...
Oui, donc c'est rassurant pour vous.
Oui, c'est rassurant.
Parce que moi, je pensais au début que vos filles... quand une de vos filles vous a dit c'est pas le bon moment, vous voyez qu'il y avait une dimension, et il y a certainement une dimension affective autour de la maison. Vous dites que c'est là où elles ont grandi.
Oui, c'est exact.
Que toutes les réunions, les fêtes familiales se passaient là. Mais elles ne sont néanmoins pas opposées totalement à la vente.
Non.
C'est plus que, là, votre fille vient de perdre son mari, elle est mal, et elle a d'autres choses en tête, la pauvre, certainement, j'imagine.
Oui.
Et. Et puis, qu'elles s'inquiètent au fond. C'est maladroit, je pense, dans leur façon de formuler. Mais je pense qu'il y a un peu une inquiétude pour vous. De dire, oh là là, maman, si elle s'embarque à être locataire, un loyer tous les mois, une petite retraite, bon.
Je pense que c'est un peu ça. Parce qu'elle, elle m'a rien dit du tout. C'est la dernière qui m'a dit que j'étais égoïste de faire ça.
Égoïste, pourquoi ?
Parce que mon gendre venait de partir, que j'aurais pu attendre un peu. J'ai déjà attendu quand même un an et demi.
Malheureusement, ça ne le fera pas revenir et ça ne changera rien la situation de votre fille.
Plus j'attends, plus...
Qui peut-être, si en plus, bon, ça malheureusement, ça ne réglera pas, ça n'enlèvera rien à son chagrin, mais si elle peut avoir un peu d'argent de la part de son père, oui. Dans un moment où elle vient de perdre son mari, il avait quel âge, votre gendre ?
40 ans.
Oh là là là.
Oui, il a deux filles, une de 17 ans et une de 12 ans.
Oui, quelle tristesse.
Oui.
Et votre fille travaille ?
Oui, elle travaille.
Oui, mais enfin bon, perdre son mari à 40 ans. Et peut-être que bon, déjà elle doit être très mal, angoissée pour l'avenir. Oui, et finalement, d'avoir un peu, c'est l'argent, c'est la part de son père, ça lui permettrait un peu de voir venir, d'avoir aussi une certaine sécurité, au moins sur ce plan-là. Donc finalement, vous savez, il n'y a pas de bon moment. Hein.
Si je me suis dit, si je vends la maison, vous aurez votre part. Quoique elles ont une maison, toutes les trois ont une maison. Bon, c'est vrai, ma fille, elle a encore 5 ans à payer. Il lui reste 5 ans à payer.
Oui, ben oui, mais...
peut-être pas facile.
Votre fille qui vient de perdre son mari.
Oui, parce qu'au niveau assurance, comme il avait déjà.
Elle peut peut-être revoir les crédits. Enfin, je ne sais pas. Et puis, si elle a un apport, une somme d'argent qui arrive, ça peut peut-être permettre de, de revoir un peu le montant du crédit.
Justement, c'est ce que j'avais dit.
C'est ce qu'il faut lui dire à votre fille. Dire, écoute, de toute façon, cette maison, il n'y a jamais de bon moment. Parce que je comprends aussi ce qu'elle représente pour vous, cette maison. Et finalement, vous pouvez lui dire, tu sais, ta sœur, dans le désarroi dans lequel elle se trouve, au moins elle aura la part de son père qui l'aidera un peu à, en tout cas, à moins s'angoisser matériellement sur l'avenir. Vous voyez, vous pouvez lui répondre ça aussi à votre fille. Parce que vous taxez d'égoïste, c'est un peu dur, je trouve.
Oui, parce que je voulais déjà la vendre avant, quand j'ai vu que mon mari commençait à pas être bien.
Oui.
Il ne s'intéressait plus au jardin, ni à rien. Et je voulais faire des travaux, justement, faire la salle de bain, mettre une douche au lieu d'une baignoire, parce qu'on a une baignoire. C'était plus pratique. Enfin,
Séverine, plutôt, puisque vous avez pris la décision, vous, de la vendre, pour que les choses ne restent pas bloquées ad vitam aeternam, et que vos filles, elles vous disent pas un nom farouche, elles vous disent, maman, au fond, ça serait peut-être plus raisonnable si tu t'achetais un appartement. Donc, puisque l'agent immobilier vous a rappelé là aujourd'hui, vous pouvez lui dire, bon, écoutez, j'ai réfléchi par rapport à l'argent, que je toucherai, je peux investir tant. Qu'est-ce que vous avez comme bien à me proposer? Et vous pouvez voir d'autres agences aussi. Hein, il est toujours bien dans ces cas-là. Si c'est avec lui que vous traitez pour la vente de la maison, très bien. Mais ça ne vous empêche pas de jeter un œil aussi dans d'autres agences pour trouver un bien qui vous convient.
Oui, d'autres maisons.
Voilà.
D'autres
appartements. Où il n'y a pas de travaux. Pas de gros travaux. Ça doit pouvoir se trouver, hein, je pense.
Mais
c'est
disons
vrai.
Que pour l'instant, étant donné que je ne sais pas encore combien je vais la vendre...
Vous avez quand même là... C'était sur le point de se faire, donc vous avez bien une idée.
Oui, c'était sur le point de se faire, oui.
Vous avez bien une idée.
Mais bon, maintenant, je ne sais pas si... tout dépend de la personne qui va... Et combien de temps ça va mettre ?
Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il faut là, pour la prochaine fois, que ça ne se reproduise plus de cette façon, et à ce moment-là que vous en parliez à vos filles, en disant bon, j'ai réfléchi, effectivement, vous avez raison. Ça serait quand même finalement une sécurité. Ça m'angoissait un peu de me remettre propriétaire avec des travaux, mais dire ben, j'ai réfléchi, je vais demander à voir visiter des appartements et finalement acheter avec la part qui me revient. Et comme ça, vous avez quand même un ordre d'idée au vu de ce que vous pensiez pouvoir la vendre. Alors effectivement. Vous verrez avec le prochain acheteur. Mais l'agent immobilier va bien vous dire aussi, enfin, vous n'allez pas baisser tout d'un coup, vous voyez. Vous avez quand même un ordre d'idée de combien vous pouvez mettre dans l'appartement.
Oui, bah, il était là pour me poler. Hein.
Bon. Alors, il y a aussi la cravate rouge qui dit, vous pouvez aussi avoir un notaire, un peu, pour votre projet de vente et lui demander conseil sur...
Oui, je lui ai demandé conseil. Bon, tout ce qu'il m'a dit, bon, c'est tant qu'elle ne change pas d'avis pour l'instant, hein, à moi qu'il faut que j'aille devant les tribunaux ou un truc comme ça. J'ai pas l'intention de faire ça.
Non. Si vous embarquez devant les tribunaux, alors, c'est pas possible.
Il y a une de mes filles qui m'appelait hier et qui m'a dit, bah, pour l'instant, tout reste bloqué, il n'en est pas question que je donne mon accord. C'est pas possible. Je donnerai pas mon accord.
Bon, il faut débloquer la situation, Séverine.
Oui, parce que moi...
À tout point de vue.
Moi, j'ai des bons, mais j'ai aussi de très mauvais souvenirs en cette maison.
Bon, il faut débloquer cette situation aussi bien financièrement que par rapport au lien que vous avez avec vos filles.
Parce que tout allait bien. C'est vrai que ça fait des années qu'elles sont... Elles sont parties faire leurs études ailleurs. Elles venaient que pour les fêtes et puis... Et quand elles étaient en vacances, elles venaient tout le temps avec les enfants à la maison.
Et oui, c'est la maison familiale.
On leur donnait pas, on leur demandait rien.
Mais elles ont tout le... quand les enfants viennent en vacances, en général...
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elles s'acharnent là, comme ça, sur moi. Je ne comprends pas.
Mais en fait, ce qu'elles vous demandent, c'est... Enfin, ce qu'elles vous demandent... Elles trouvent qu'une location, c'est pas une bonne idée.
Oui,
mais elle vous refuse pas. Elle vous disent pas non, on ne veut pas vendre. Elle pourrait malheureusement. Enfin, juridiquement, elles en ont le droit. Mais au fond, elles disent ça serait mieux de que vous achetiez. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Je suis d'accord.
Bon, il va bien falloir trouver un accord, non, Séverine? Parce que ça serait quand même dommage de bloquer déjà, de vous retrouver dans cette maison complètement bloquée, à ne plus rien pouvoir faire, et en plus de vous fâcher avec vos filles. Enfin,
c'est
voyez.
Ça, c'est ça le problème.
Bon, donc il faut essayer d'aplanir un peu les choses, vous pensez pas?
La maison, elle est grande, et puis je suis toute seule avec mon chien.
Ah ben justement.
Donc j'ai payé tout, je chauffe la maison, tout. Il y a quand même pas mal de dépenses.
Mais ça, vous pouvez leur dire, mais qu'est-ce qui bloque au fond aujourd'hui?
Quand je leur dis qu'il y a des dépenses, elles me disent tout le monde a des dépenses. Nous aussi, on a des dépenses. Quand il y a quelque chose à repérer, nous aussi, on a fait appel à quelqu'un.
Mais Séverine, là, j'ai peur que vous rentriez dans des discussions sans fin. Où ça va devenir de plus en plus âpre et tendu avec vos filles, où vous allez parler qu'argent. Et en fait, y a autre chose derrière. Et chacun parle dans son coin et ne s'entend pas. Donc, il va bien falloir qu'il y ait un moment trouver une forme de compromis. Et au fond, parlez-en à l'agent immobilier, à votre notaire. Mais vendre cette grande maison, où, oui, je comprends bien qu'il y a beaucoup de travaux, il n'y a pas que des bons souvenirs pour vous, il y a beaucoup d'entretien. Et racheter un appartement plus petit mais agréable dans lequel vous pourriez y être avec votre chien, après tout, c'est beaucoup de gens aimeraient pouvoir acheter plutôt qu'avoir un loyer à payer dans leurs vieux jours où c'est pas facile avec une petite retraite. Vous avez cette possibilité-là, pourquoi ne pas l'utiliser, voyez?
Mais je leur ai dit que je suis d'accord.
Bon, alors, il faut dire j'ai réfléchi. Et quand vous aurez fait les choses et qu'elles seront d'accord pour la vente, vous pourrez leur dire quand même, mais ce qui m'a blessée, c'est que vous me parliez de maison de retraite.
Ah bah oui, c'est,
alors ok, vous vous faites du souci peut-être pour moi, mais j'ai que 63 ans, laissez-moi un petit peu souffler quoi. La maison de retraite, oui, vous inquiétez pas, je m'en occuperai le moment venu, d'accord ? Il faut débloquer la situation, ouais, là, c'est vrai. Pour vous.
J'essaie, parce que ça me travaille.
Ben oui, ben c'est pour ça. Finalement, voyez avec votre agent immobilier et puis dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous avez comme bien me proposer ? Ça doit pouvoir se débloquer, hein, Séverine. Ça serait dommage de se fâcher. Je vous embrasse. Bon courage à vous, Séverine. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Même Bill Gates... Divorce, alors qu'est-ce que vous voulez ? On peut en parler, hein, si vous voulez. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation, 09 69 39 10 11. On va continuer à se parler pendant une heure encore.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Exceptionnellement, ce soir, en raison du foot, pendant une heure encore, vous allez pouvoir appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour nous parler de vous et partager avec nous des moments heureux ou plus difficiles de votre vie. Et si un témoignage fait écho à votre histoire, à tout moment, vous pouvez appeler ce numéro pour en parler avec nous. Vous pouvez aussi donner votre point de vue, témoigner de votre soutien en envoyant un petit SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ou en nous écrivant un message sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir.
Bah, ravie d'être avec vous.
Alors Sophie, vous voulez me parler d'une situation qui est un peu dans l'impasse pour vous, je vois.
Oui, qui me met un peu pas mal à l'aise, mais je ne sais pas trop sur quel pied danser.
Oui, oui.
En fait, j'ai rencontré quelqu'un et il se trouve que pendant un an et demi, on a été très amis. Pendant un an et demi, lui m'a clairement fait comprendre qu'il était tombé amoureux de moi et qu'il voulait qu'on se mette ensemble. Moi, pendant tout ce temps-là, donc pendant un an et demi, je lui ai expliqué que j'ai une maladie orpheline, j'ai des gros soucis de santé, donc qui ne se voit pas. Je fais partie de ce qu'on appelle les handicaps invisibles.
Oui.
Donc, c'est quand même la majorité des handicaps. Donc, donc, je lui ai expliqué que fallait pas qu'on se mette ensemble, que j'avais une vie compliquée, que j'ai essayé tout ça. Pendant un an et demi, j'ai tenu.
Mais parce que lui était désireux, avait envie de vivre avec vous, d'avoir une histoire avec vous.
Ah, donc, totalement. Oui,
donc, pendant un an et demi, vous avez cherché à le dissuader.
Exactement. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était compliqué, que si que ça, voilà. Et au bout d'un an et demi, moi j'étais amoureuse de lui, lui était amoureux de moi, donc je me suis dit pourquoi pas tenter au final, on verra. Donc on s'est mis ensemble et là on a passé quasiment 2 ans ensemble.
D'accord.
Et ça va faire bientôt un an qu'il m'a quittée. Et clairement, il me l'a dit, il m'a expliqué que après, avec le confinement, ça a été difficile parce que lui était confiné d'un côté, moi de l'autre, donc pendant le confinement, on s'est pas vu.
Oui.
Et juste après le confinement, je crois que ça a beaucoup, beaucoup tourné dans sa tête, tout ça. Et il m'a quitté. Et quand j'ai demandé des explications claires et nettes, il m'a dit que voilà, la maladie était difficile à supporter, qu'il ne s'imaginait pas que c'était à ce point, que. Enfin, voilà. Donc, je lui ai un petit peu expliqué que je lui avais déjà dit tout
c'est
ça.
C'est dur, oui. Mais parce qu'elle s'apaise vraiment dans votre quotidien, cette maladie ?
Ah oui. Oui, puisque je fais des crises d'épilepsie, j'ai une sclérose en plaques, j'ai une maladie orpheline qui se greffe dessus, où on n'a pas encore identifié vraiment. Donc, vraiment, ça, il y a des moments où ça va très bien.
Oui.
Mais quand ça ne va pas, ça ne va vraiment pas.
Oui, oui.
Et vraiment. Et donc, on aurait pu en rester là, en fait. Et il se trouve que depuis qu'on est séparés, c'est comme si on était toujours ensemble. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est très à l'écoute. On a des nouvelles l'un de l'autre tous les jours, mais tous. Il n'y a pas un jour de l'année où on n'a pas de nouvelles. Si moi, je fais bien attention de ne pas lui envoyer de message de la journée, je suis sûre que le soir, j'aurai un message, j'espère que ça va, que ta journée s'est bien passée, qu'il n'y a pas de soucis. Enfin, il s'inquiète direct si tu n'as pas de mes nouvelles. Si je l'appelle pour, je ne sais pas, pour n'importe quoi, il est présent tout le temps,
oui.
comme si on était en couple. Vraiment.
Et mais vous n'avez plus d'intimité de couple ?
Alors, ça arrive.
Ah oui.
Bon, donc... rarement, hein, très très rarement quand même, parce que. Mais c'est vrai que ça arrive. Et il est très câlin, c'est quelqu'un qui est très tactile, moi aussi d'ailleurs. Donc, on reste très câlin. Moi, il m'est arrivé forcément dans l'année, comme tout le monde, hein, des hauts et des bas. Quand ça ne va pas trop, mon père par exemple a été malade.
Oui.
Il s'est retrouvé à l'hôpital, enfin, tout, voilà. J'ai été le voir. Il m'a pris dans ses bras, il m'a fait des câlins, enfin vraiment comme un ami, mais vraiment plus quoi.
Et quand oui, j'en parce parle que ce que vous décrivez, ami, ça pourrait être, pardon, être comme un ami. Mais oui, vous en parlez avec votre meilleur ami.
Avec son meilleur ami.
Ah, avec
et son meilleur ami, quand tu lui dis voilà, ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Est-ce que et lui, il me dit non, mais il se voile la face en fait. Il est amoureux de toi, il ne veut pas l'admettre, mais il est totalement amoureux de toi. Et quand il ne veut rencontrer personne d'autre.
Ah bon?
Il ne veut. Ah non. Depuis. Moi, je lui dis, mais t'es sur des sites, t'essayes de rencontrer. Il m'a dit, ah non, mais de toute façon, j'en suis pas là. Alors bon, voilà. Et son meilleur ami m'a dit, le truc, c'est que quand il me parle de toi, il a des étoiles dans les yeux, on sent que...
Oui, voilà, il est toujours amoureux de vous.
Voilà, tu comptes énormément pour lui et c'est clair et net, quoi.
Et vous,
mais il a
vous,
peur.
Vous, oui, il a peur de la maladie et du handicap, finalement, avoir partagé le quotidien avec vous. Ou dans ces moments-là, si vous faisiez une crise d'épilepsie, enfin c'est lui qui était là et qui...
Oui, il m'a vu en faire une et apparemment ça a été... Enfin, il paraît que c'est très impressionnant
oui,
à voir. Moi, je
ne
l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est très impressionnant. Le coup, il a super assuré, il a fait tout ce qu'il fallait.
Oui.
Voilà. Et après, moi j'ai vu ses parents, mais sans qu'il soit là. Et j'ai vu ses parents et ses parents m'ont dit, mais quand tu as fait ta crise d'épilepsie, il est arrivé chez nous. Il était tout blanc, il savait plus qui il était, il a eu la peur de sa vie, il avait l'impression que tu allais mourir dans ses bras.
Vous lui aviez dit que vous faisiez des crises, il savait,
oui,
mais il n'avait jamais été des témoins de ça.
Voilà, il avait jamais.
Il a eu très peur pour vous.
Alors, j'avais expliqué comment ça se passait, ce qu'il fallait qu'il fasse.
La théorie et la pratique.
Et la pratique, voilà, c'est ça.
Est-ce que
venu avec moi chez le médecin, hein.
Il vous accompagnait.
Il avait tellement de questions. Ouais,
d'accord.
Il avait tellement de questions par rapport à la maladie orpheline, par rapport à tout ça. Je lui ai dit, mais t'as qu'à venir. Mais en rigolant comme ça, je lui ai dit, t'as qu'à venir chez le médecin. Et il me dit, mais t'accepterais vraiment que je vienne? Je lui ai dit, oui, si tu veux, bien sûr. Et il est venu avec moi chez le médecin. Il a posé plein de questions et tout. Mon médecin lui a dit, écoutez, Sophie a mon numéro de téléphone. Si besoin, vous m'appelez. Je vous parlerai pas du cas de Sophie, mais je vous parlerai de la maladie. Si vous avez des questions, plutôt que d'aller sur Internet, voir tout et rien, appelez-moi, je vous expliquerai et tout. Enfin, il a été, il s'est vraiment renseigné sur tout ça, il a fait plein de recherches. Voilà. Mais c'est vrai qu'entre se dire elle est malade et vivre avec quelqu'un, puis le fait de se dire que potentiellement d'une seconde à l'autre, je peux faire une crise d'épilepsie, je crois que ça le...
Mais en dehors de ces crises d'épilepsie, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement, d'une aide dans le quotidien
pour, pas dans tous les jours. Après, j'ai pas le droit de conduire, par exemple. Donc, ça peut, pour aller chercher des courses, des choses comme ça, oui.
Mm-hmm.
Mais
du fait de ces crises d'épilepsie.
Je marche toute seule. J'ai pas le droit de conduire.
Qu'on n'arrive pas bien à contrôler, alors, malgré le traitement
Le problème, c'est qu'on les contrôle, mais jusqu'à un certain point. Là, l'année dernière, au mois d'août, j'en ai fait deux le même jour.
D'accord.
Donc,
mais le neurologue doit, enfin, il modifie votre traitement
Oui, ils essaient, mais bon.
Ça vous fatigue beaucoup?
Ah oui.
Vous êtes très fatigué.
Énorme.
Vous ne pouvez plus travailler?
un an, j'ai pas le droit de travailler, puisque avec la maladie orpheline que j'ai, ça me crée beaucoup de douleurs articulaires, musculaires et tout ça. Du coup, je prends de la morphine, je suis sous morphine en continu.
Oui, c'est
donc
très
lourd. Donc, ça me fatigue aussi, ça.
Et depuis quand vous êtes, enfin, on vous a découvert ces problèmes?
J'avais 21 ans et j'en ai 38.
Oh là là, oui, très jeune, début de votre vie.
Et plus ça va et plus ça, oui, ça évolue. Donc, moi, j'essaie de vivre avec.
Oui.
Parce que de toute façon, j'ai pas le choix.
Oui.
Donc, j'essaie de vivre avec, on va dire. Après, il y a des hauts et des bas. Hein. La vie n'est pas toute rose.
Bien
c'est sûr,
bien sûr.
Mais je ne comprends pas. Oui. Je ne sais pas si je dois espérer qu'ils reviennent ou s'il faut que je passe totalement une croix sur, on va dire, notre histoire d'amour, mais pas sur notre amitié. C'est compliqué. C'est vraiment la situation tout de suite.
Quand il est parti, compliquée. En fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en fait, dans cette histoire, on voit que, au fond, vous êtes trois. Il y a vous, il y a lui, et puis il y a la maladie, le handicap. C'est ça. Et ça pèse forcément sur le quotidien, comme vous dites.
Oui, avec... il y a des choses que je pourrais changer. Je veux dire, s'il me disait, je sais pas, t'es trop colérique, t'es trop. Je pourrais faire quelque chose sur ça, mais là, ça, j'y suis pour rien.
Non, bien évidemment.
Là, vraiment.
Bien évidemment. Vous avez d'ailleurs, vous l'avez mis en garde, ce qui veut dire que jusque-là, vous aviez eu des expériences par le passé où ça avait été compliqué pour les hommes qui ont à un moment partagé votre vie, ou c'était votre première expérience de couple, enfin, au quotidien.
Oh non, j'avais eu d'autres couples, mais en général, le problème, c'était surtout que je tombais sur des hommes infidèles, des hommes qui n'en avaient absolument rien à faire de moi et qui partent, enfin, vraiment n'importe quoi. Et là, pour une fois, je tombais sur quelqu'un qui vraiment m'aimait.
Enfin, je sais pas si c'est pour parler au passé ou pas, mais oui,
vraiment
j'entends.
M'aimait, vraiment, mais un amour vrai.
Oui.
Vraiment.
Oui.
Et moi, pareil.
Mais qui ne se sent... C'est ça. C'est... Vous voyez, je reçois des messages. Je vais vous les lire, Sophie, parce que... Et des messages d'hommes, d'ailleurs. C'est intéressant, puisqu'il y a Louis qui dit « Oh, il n'est pas clair, parce qu'avec ses ex, il est impossible d'être ami. Clarifiez votre relation, sinon vous allez cogiter, souffrir. » Il y a Jo qui dit « Votre ex vous aime, mais il vous quitte. Il est indécis. Quand quelqu'un est indécis, la personne fait n'importe quoi. » Je trouve dur, c'est parce que je trouve très dur là ces réactions, parce que je trouve qu'on peut pas jeter l'opprobre sur son comportement. Comme vous dites, je pense que oui, il vous aime, mais c'est pas simple quand on forme un couple et vous êtes jeunes tous les deux et qu'il y a cette carte supplémentaire qui est la maladie et le handicap. Ça pèse, parce que...
Après, il a déjà été marié et il a déjà une petite fille. Donc, bon, déjà, il a un enfant, parce qu'il sait très bien qu'avec moi, il ne pourra pas avoir d'enfant. Ça, c'était sûr. C'était une évidence. Moi, je n'ai pas le droit de travailler à cause de ma maladie qui me fatigue beaucoup trop vite, donc je ne peux pas travailler. Donc, ça, c'est pareil. Par exemple, pour une chose toute bête, mais s'il veut acheter une maison ou quoi, c'est sûr que moi, vu que je ne travaille pas, s'il faut un prêt en banque ou quoi, je sers à rien, faut être honnête, hein, voilà. Donc, c'est des choses comme ça où.
Oui, c'est lourd, ça pèse sur la vie privée, sur la construction.
Voilà, comme une vie normale, entre guillemets.
Oui.
C'est compliqué.
Il a quel âge, lui? Il est plus âgé que
vous? Un an moins que moi.
Il a 35 ans, d'accord.
Oui.
Mais c'est-à-dire que c'est vrai que vous soulevez des problèmes très concrets. Et malheureusement, c'est la double peine quand c'est ça. Il y a la maladie, le handicap. Vous dites, ne serait-ce que pour emprunter, malheureusement, voilà, on vous renvoie à vos problèmes de santé. Alors, vous parlez d'enfants. Vous dites, bon, il a déjà une petite fille parce que vous, voilà, il y a un deuil à faire de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'avenir, dans la projection, qui deviennent compliquées. Et puis, dans un quotidien, il y a aussi le fait, c'est pas simple d'être à la fois l'amoureux, l'amant et l'aidant aussi.
Ouais, mais après, enfin, je veux dire, dans le dans la vie de tous les jours, je me fais à manger toute seule, je m'habille toute seule, je me lave toute seule, je suis tout à fait autonome. Hein. Dans la vie de tous les jours, oui. Ça va. Mmh. Après, bon, pour certaines choses, comme je vous dis, par exemple, s'il faut que j'aille à un endroit en voiture, soit j'y vais en bus, je me débrouille avec le bus, les trains, tout ça. Enfin, j'ai pas de... C'est-à-dire, j'ai pas besoin de quelqu'un au quotidien. Ça, non,
c'est ça.
Absolument
oui,
pas.
Il n'y a pas de... Oui, vous n'êtes pas dépendante de quelqu'un.
Voilà.
Quand il est parti,
il n'y a pas de souci.
Quand il est parti après ces deux ans, qu'est-ce qu'il vous a dit au fond avant de partir?
Ah, il a été très clair. Il m'a dit que c'était compliqué, qu'il n'arrivait plus, que quand j'avais mal, il avait mal avec moi.
Oui.
Que quand j'avais pas le moral, ben lui non plus.
Oui.
Et que pour lui c'était trop difficile.
Oui.
Et il a été très honnête, mais vraiment très honnête. Et c'est d'ailleurs, je crois, pour ça, parce qu'il a été honnête, qu'aujourd'hui on s'entend si bien.
Oui.
Parce que
au fond, vous ne lui en avez pas voulu. Ça a été dur pour vous,
voilà,
j'imagine.
Au départ, j'en ai voulu parce que je lui ai dit, mais je t'avais prévenu.
Oui.
Je t'avais dit, pendant un an et demi, j'ai freiné en te disant, je ne veux pas qu'on se mette ensemble parce qu'il y a cette maladie. Tu as absolument voulu qu'on tente, on a tenté, et voilà le résultat.
Oui.
Au début, j'en ai voulu.
Oui.
Mais il a été hyper honnête. Il n'a pas cherché à noyer le poisson.
Semble-t-il,
Non,
oui. Oui, honnête en vous parlant, au fond, de ses limites à lui.
Voilà.
Et il vous le dit, finalement, comme il vous aime, comme il est très proche, quand vous aviez mal, il avait mal, il était presque trop en fusion avec vous.
Ah, mais c'est terrible.
C'est ça.
Et même encore aujourd'hui, là, il y a plus d'un mois, là, on a cru que j'avais le Covid, donc j'étais très, 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 très mal. Et donc, je lui ai dit, surtout, ne viens pas. Et il m'a dit, mais il n'en est pas question. Il est venu. Avec le masque et tout le truc, me faire à manger, enfin, voilà. Et pourtant, on n'est pas ensemble.
Mm.
Mais pour lui, c'était une évidence qu'il fallait qu'il soit là pour moi. Il était hyper inquiet.
Qu'il a. Enfin, il y a certainement de la culpabilité aussi, un peu chez lui. Vous ne pensez pas de...
Je ne sais pas s'il se sent coupable de. Je sais pas. Mais moi, c'est vrai que je sais pas si je dois totalement enterrer notre histoire ou si, au contraire, je dois m'accrocher en me disant, il va réfléchir, il va se rendre compte que, j'ai ce handicap-là, mais que, j'ai des bons côtés aussi.
Mais bien sûr, évidemment, vous ne vous résumez pas à votre maladie, à ce handicap.
Pas.
Mais bien évidemment,
Donc,
Mais il y a là où il a été honnête, c'est qu'il vous parle au fond de sa peur, à un moment de ses limites à lui.
Et il est totalement honnête là-dessus, mais vraiment.
Et oui, parce que c'est une chose, et je comprends qu'au départ vous lui en ayez voulu, puisque au fond vous avez tout fait pour lui dire non, ça sera pas possible. Et puis, l'amour à un moment a été le plus fort, et puis il a été confronté à la réalité. Et dans les crises que vous faisiez, dans votre état de fatigue à certains moments, lui, même s'il vous aime, ne se sent peut-être pas à même de faire face à ça.
Il ne se sent pas
pour
me supporter tout ça.
Peut-être trop en fusion même avec vous, finalement. Presque, il a une telle empathie, mais comme il vous aime.
Ce qui est dingue, c'est que si je ne vais pas bien, et que pourtant on ne se voit pas, si on ne se voit pas, par exemple, de deux jours ou trois jours, si je ne vais pas bien, il le sent. Il m'appelle, il me dit « T'es sûr que ça va ?»« Oui, ça va. » Non, mais t'es vraiment sûr ? Bon, non, en fait, effectivement, j'ai super mal et le sens.
Oui, mais alors c'est là où c'est très dur pour vous et très piégeant, finalement, la relation là que vous avez. Parce que vous, évidemment, c'est votre question. Est-ce que je dois l'éloigner de ma vie ou au contraire, au fond, espérer, quand vous le voyez si prévenant, si attentionné, si en phase avec vous, évidemment, vous ne pouvez que vous dire, il va réfléchir et revenir. Et puis lui, de son côté, peut-être se dire, sans vouloir, vous voyez, quand je parlais de culpabilité, dire c'est quelqu'un de bien, c'est que c'est une femme formidable, s'il n'y avait pas la maladie. Voilà. S'il n'y avait pas la maladie, on pourrait faire plein de choses. Et sans vouloir, au fond, de ne pas pouvoir assumer. Et du coup, ne pas arriver aussi à s'éloigner. Cet entre-deux est très dur, je trouve. Et pour vous et pour lui. Il faudra en reparler.
Tous les jours qu'on a...
Oui, ben oui. Oui, mais c'est là où je vous demandais, est-ce que vous gardez une intimité de couple et parce qu'à ce moment-là, vous pourriez être dans une relation d'amitié, quelque chose de très profond. Mais vous me dites que parfois, bah, vous avez une relation intime. Et alors,
oui,
ça se fait comment ?
C'est très rare.
C'est très rare. Il s'en veut après coup ? Il en parle avec vous ou... Comment qui prend
non,
l'initiative
non, c'est non, parce qu'on n'en parle pas et puis point barre.
Mais s'il faudra en parler, parce qu'au fond, vous voyez, ça maintient un lien qui est un lien un peu problématique pour vous deux. Où au fond, vous ne savez pas sur quel pied danser, pour parler familièrement.
Oui, c'est ça. Puis en plus, il me dit bien que de toute façon, il n'a pas du tout envie de rencontrer qui que ce soit pour le moment, que il n'est pas du tout dans cet objectif.
Oui, comme s'il vous rassurait, mais au fond. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement avec vous, il s'interdit d'être avec quelqu'un d'autre. Au fond, vous vous dites, il est là pour moi. Et bah, c'est comme si vous vous sentiez encore en couple avec lui. Enfin, vous voyez, vous êtes liés l'un à l'autre et presque empêchés de vivre.
Mais totalement, c'est vraiment comme si on était en couple, sauf que on n'est pas. Mais vraiment, les rapports qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux qu'on avait quand on était en couple. Enfin, les mêmes. Quand on est en couple, il y a des rapports qu'on n'a pas quand on est amis.
Ben,
mais
oui.
C'est vraiment les mêmes, on s'appelle.
Oui, parce que le poids, il n'a pas ce. Il est au fond. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ça, d'avoir au fond, de dire j'y arrive pas. J'ai peur, ça me fait mal. C'est-à-dire, il vous aime, vous, il n'aime pas la maladie.
Moi, j'en ai parlé avec ses parents, sans lui cacher. Hein. Mais j'en ai parlé avec ses parents, j'ai appelé ses parents, déjà pour les remercier de leur accueil pendant 2 ans. Et puis, j'en ai parlé avec eux. Et eux m'ont dit, je pense qu'il t'aime très fort, mais il a peur.
Oui, c'est ça.
Et comme je leur ai dit, mais il était au courant de tout ça. Je lui ai pas
c'est
menti,
pas la même chose, Sophie. C'est
et
pas la même chose.
C'est ce
oui, c'est pas la même chose.
Mais quand il t'a vu faire la crise d'épilepsie,
voilà.
Là, il s'est rendu compte que c'était.
Oui, il a eu très peur.
Il a eu très peur.
Mais oui.
Et apparemment, chez lui, ça a été un déclic ce jour-là.
Oui, il s'est dit, je ne peux. Au fond, il s'est dit, j'y arriverai pas. Je ne peux pas. Ou je suis pas là où c'est. Ça me fait trop mal ou trop peur.
Parce qu'il n'y a qu'une trouille, c'est quand il est au travail, si je suis toute seule à l'appartement, que je fasse une crise, si je suis toute seule. Enfin, voilà, c'est tout truc comme ça auquel il réfléchit tout le temps. Mais comme je dis, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc, moi, si je me pourris la vie à penser qu'à ça, je ne vis plus, quoi.
C'est vrai.
Donc, si ça doit arriver, ça arrivera. C'est comme ça, c'est la vie. Et ce serait très grave, mais c'est la vie. Alors que lui, c'est vraiment quelque chose.
Oui, il vous dit qu'il ne pourrait pas parce que la peur l'a envahi et il serait dans une inquiétude permanente qui ne lui permettrait pas de vivre. Là où finalement, avec la distance, même s'il est présent en vous appelant tous les jours, il n'a pas il se sent responsable de vous, d'une certaine façon, mais il n'y a pas le même poids que lorsqu'il partageait le quotidien avec vous. Il serait là. Vous auriez un problème, il arriverait tout de suite.
Ah oui, mais
mais
ça, c'est sûr.
Il y a quelque chose auquel il ne peut pas faire face. Et encore une fois, personne ne peut juger ça. Parce que, oui, malheureusement, quand dans un couple, il y en a un des deux qui est malade ou porteur d'un handicap, ben, il y a le couple et cette carte supplémentaire, malheureusement, qui vient se rajouter et qui pèse lourdement sur la vie.
Avant d'être avec lui, je voyais mon handicap comme, certes, quelque chose avec laquelle il fallait que je vive, et c'est loin d'être drôle et tout ça, alors que maintenant, j'ai l'impression d'être juste une personne handicapée. Mais parce que je me dis que si ça l'a fait fuir, ça fera fuir les autres. Donc,
non,
j'ai
pas forcément.
Pas du tout l'intention de trouver quelqu'un
mais
d'autre.
Mais pas forcément, Sophie, c'est
pas
vrai.
Envie de...
Chacun réagit différemment. Chacun réagit différemment. Il y a auparavant, vous me dites, vous avez eu des relations et vous voyez avec des hommes qui ne voyaient pas cette dimension du handicap. Ça les empêchait pas d'avoir une relation de couple, enfin classique, parce qu'effectivement il y a cette relation de couple. Ordinaire, finalement,
oui, normal.
Un couple où il y en a un des deux qui a une maladie ou un handicap, il rencontre tous les problèmes, les mêmes problèmes que les autres couples, parce que supporter l'autre au quotidien n'est jamais facile, mais il peut y avoir de l'infidélité, enfin. Mais parfois, ce qui est compliqué, c'est, il est important, quand on s'aime dans une histoire de couple, même si on l'oublie, de savoir que l'on peut se quitter. Parce que dans toute histoire d'amour, mais dans le cas où il y a un handicap, une maladie, celui qui n'est pas handicapé, souvent, parfois ne peut envisager sans culpabilité de partir, parce qu'il y a se dire et je l'ai aidé, enfin je vais le laisser en plus maintenant seul avec sa maladie et son handicap, voyez. Mais dans les faits, dire que en dehors de lui, vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un qui, lui, pourrait vous aimer avec ce que vous êtes, votre personnalité. Et aussi, cette dimension-là, qu'est la maladie et le handicap, non. Enfin, ça peut se produire. Lui vous dit, au fond, qu'il ne s'en sent pas la force.
Oui, mais je me dis, vu que c'est une maladie évolutive, en plus. Et que, malheureusement, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer.
On ne sait pas bien, oui, la sclérose en plaques, il y a des...
J'ai pas envie de revivre ça, en fait.
Non, mais moi, je comprends, de votre point de vue, que vous ayez... Vous avez quelqu'un qui est très prévenant, évidemment, je comprends tout à fait votre... Vous avez quelqu'un qui est d'une extrême douceur, d'une extrême bienveillance, qui est très attentionné, très prévenant. Je comprends que vous n'ayez pas envie et que vous vous accrochiez à cette histoire. Et lui, c'est là où... Peut-être, à ce moment-là, vous pourriez en parler avec quelqu'un pour voir... peut-être en parler ensemble avec un thérapeute en disant que ça vous... Au fond, c'est bouleversant ce que vous vivez. Parce que lui, il part de votre quotidien, mais il reste présent. Donc, vous voyez, et en s'interdisant au fond d'avoir d'autres histoires, vous dites, non, personne ne pourra m'aimer comme il m'aime. Et au fond, vous êtes dans une situation de blocage affectif.
Ah oui,
c'est lourd, au fond.
C'est sûr que j'imagine pas une seconde être dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est impensable pour moi. Totalement impensable.
Je vais vous lire des réactions. Ça fait beaucoup réagir, beaucoup, beaucoup réagir. Il y a Jonathan qui dit... comme il le dit, votre maladie le fait peut-être tellement souffrir aussi lui qu'il a préféré partir parce qu'il a peur. Il y a quelqu'un qui dit vous pourriez juste profiter de l'instant présent avec lui quand c'est possible et conserver votre indépendance. Alors il y a la cravate rouge qui dit vous avez fait part aussi de vos difficultés qui sont survenues au moment du confinement. Le confinement nous a tant épuisés, contraints à beaucoup de remises en cause. Peut-être que son ami pourrait se repositionner un temps. Il y a Théodora qui dit attention aussi que cette relation ne devienne pas étouffante, parce qu'à vivre avec un idéal impossible, c'est dur. Il y a Marie qui dit c'est vrai que malgré tout l'amour que je pourrais porter, la maladie pourrait me faire peur. Il y a Sergio qui dit il vous aime cet homme, c'est indéniable, et je pense qu'il est tiraillé entre son amour et sa peur. Courage à vous, Sophie.
C'est ce que me dit son meilleur ami, qui m'aime, mais qu'il
a peur. Oui.
D'un côté, il m'aime,
mais oui. Mais oui. Il y a Cathy qui dit oui, il est effectivement très honnête. Vous avez parlé au début de handicap invisible, et c'est une part de votre maladie qui, au final, l'a déstabilisé. Mais Cathy ajoute, gardez espoir. Bambi qui dit, maintenez ce lien, même si c'est confus, il semble vouloir vous préserver. Et il a besoin d'être sûr et d'assumer. Joe, lui, pense que ça serait mieux d'avancer sans cet homme. Il y a également Théodora qui dit « Oui, en vous écoutant, on a l'impression que votre histoire n'a pas de point final. » Et on le comprend de votre point de vue, mais en même temps, je pense qu'il faudrait que vous ayez quand même une discussion ensemble, parce que il sait bien au fond que... Au fond, est-ce que vous pourriez l'avoir pour ami? Est-ce que ça sera envisageable?
Ah ben, parle tous les deux, il n'imagine pas une seule seconde me perdre, et moi, je n'imagine pas une seule seconde me perdre. Mais après, comme je dis, quand tu vas rencontrer, si tu dois rencontrer quelqu'un d'autre, quelle place tu vas avoir?
Il ne pourra pas, parce que même lui dire ça, quand vous lui dites, je ne me vois pas avec, dans les bras d'un autre homme, vous voyez, il y a quelque chose qui est beau, mais qui est aussi un peu piégeant. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne peut pas vous dire non, jamais, je ne te laisserai. Mais au fond... c'est quelque chose qui est un peu source, malgré tout, de souffrance.
Moi, je pense que c'est quand il va rencontrer quelqu'un d'autre où là, ça va tout casser, en fait. Parce que...
Oui, mais encore faudrait-il qu'il se rende disponible. Je pense que peut-être ça vous aiderait à travailler un peu ce lien, quitte à voir quelqu'un pour en parler. Paul, j'imagine qu'aussi sur la page Facebook, ça fait beaucoup réagir, parce que c'est vrai que c'est tellement dur. Quand on vous écoute, vous, Sophie, je comprends tellement que vous... on sent tout l'amour que vous lui portez, et puis d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi prévenant. Et comme vous dites, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas évacuer la maladie et le handicap d'un revers de main, malheureusement.
Si je pouvais, j'aurais déjà fait.
Évidemment. Et c'est une situation qui paraît bien inextricable, Paul.
Oui, il n'y a pas d'avis tranché, clairement.
Non, c'est pas possible.
Sylvie qui écrit « Vivez le moment présent », s'il veut être là, eh bien, laissez-le prendre cette place. Il vous aime et il a sûrement peur de vous perdre. Il y a Mika aussi qui pense que peut-être cet homme a simplement peur de ce qui pourrait se passer. Il doit peut-être chercher à limiter ses sentiments pour se protéger, lui. La peur de l'inconnu, écrit Mika, ça n'a rien à voir avec la peur d'une chose concrète. Il a l'air d'être bien, cet homme. Il faudrait que vous en parliez tous les deux. Mais continuez comme vous faites actuellement, c'est pas forcément bon ni pour lui, ni pour vous. Il y a Moon qui dit, pourquoi pas ne pas avoir une relation comme la plupart des gens, en vivant chacun chez vous. Vous auriez probablement une super vie, étant donné l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et Jacques qui dit, oui, vous devriez vraiment évoquer le futur d'une façon vraiment plus claire, de clarifier vraiment tout ça.
Oui, je pense pour vous deux, parce que vous voyez, vous vivez, au fond, vous me dites, pour lui, ça sera plus clair le jour où il rencontrera quelqu'un. Mais pour vous, vous rendez compte, vivre avec cette...
Quelque part, j'attends.
Oui, c'est ça. Et au fond, chez l'un comme chez l'autre, il y a de la peur. Il y a de la peur, et la peur, c'est un frein puissant, c'est quelque chose qui enferme au bout d'un moment, qui est très aliénant. Vous avez la peur de le perdre, si un jour il rencontre quelqu'un d'autre. Et lui, peut-être, au fond, Sophie, il a peur de vous perdre aussi. Différemment.
J'ai l'impression, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que si moi je venais à rencontrer quelqu'un, il serait limite jaloux. Alors que... Enfin, après j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai l'impression que si... Oui, si moi je lui disais, j'ai rencontré quelqu'un, ça gênerait quelque part, on va dire.
Il y a trop de peur de part et d'autre, pour que votre relation puisse pour le moment évoluer dans un sens ou dans un autre. La peur s'affiche tout. Ça fait que vous vivez, comme vous dites, dans l'attente. Et c'est pas tenable au bout d'un moment, ni pour vous, ni pour lui. Et peut-être que vous pourriez lui en parler, en disant que envisager de le perdre, c'est extrêmement douloureux, et qu'en même temps, cette situation-là, vous vous rendez bien compte que c'est bon ni pour vous, ni pour lui. Et pourquoi dire, au fond, si on allait en parler ensemble de ce que l'on vit à quelqu'un d'extérieur, comme vous le faites avec moi ce soir, finalement, Sophie, voyez, vous en parlez à vos amis, vous essayez, au fond, de dénouer quelque chose, peut-être de sortir de cette peur qui vous paralyse, l'un et l'autre. Et si vous faisiez la démarche ensemble, peut-être qu'au fond, ça serait donner une chance à vous deux. Qui est quelque chose qui bouge.
Accepte, on pourrait, c'est vrai.
Oui, mais vous pouvez lui en parler, voyez, parler de ce lien.
Vrai, parce que moi, j'ai pensé déjà aller en parler avec quelqu'un.
Oui.
C'est vrai que j'ai pas pensé lui demander de venir en parler aussi, voir sa façon de voir les choses.
Je pense que ça pourrait vous faire du bien d'exprimer l'un et l'autre ce que vous ressentez. Et la peur qui est la vôtre. La peur, ça paralyse, on ne peut plus rien faire. Et au fond, il faut arriver à avancer d'une façon ou d'une autre. Et Je pense qu'en en parlant, vous arriverez à sortir au fond de cette impasse affective dans laquelle vous vous trouvez.
D'accord.
Et en tout cas, avoir moins peur.
Si il serait d'accord.
Oui, proposez-lui. Je pense, parce qu'il est très attaché à vous, cet homme, à l'évidence.
Je pense. Franchement, j'espère que...
Non, ça, je pense que vous vous trompez pas du tout sur le sujet. Je vous embrasse, Sophie.
Et je vous remercie
beaucoup. Courage à vous.
Bonne fin de soirée.
Merci. Au revoir,
merci.
Sophie.
Au revoir.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
All around the world, c'était dans les années 90. On a dansé là-dessus.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Le témoignage de Sophie était poignant. On voit, il n'y a pas de solution. On ne peut pas avoir d'avis tranché sur une telle situation parce que il y a de l'amour. C'est ça qui est bouleversant. On sent beaucoup d'amour et de la part de Sophie quand elle parle de cet homme et. Et quand elle nous parle de lui, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'amour de son côté. Et vous réagissez d'ailleurs, il y a la cravate rouge qui dit il faut que Sophie continue de se battre pour elle et peut-être aussi pour son couple. Elle le mérite tellement qu'il soit heureux et qu'elle donne des nouvelles de temps à autre. Vous avez été nombreux à dire on aimerait avoir des nouvelles de Sophie et de son histoire. Il y a l'homme au camélia qui dit que je comprends cette épée de Damoclès qu'est l'épilepsie. C'est une angoisse permanente par laquelle chaque fait de la vie passe. Et Sophie disait, pourtant je lui avais dit, mais c'est vrai qu'entre savoir, on disait mais je vais faire face, j'y arriverai, et le vivre évidemment et l'éprouver, c'est ça. On voyait que son ami l'éprouvait dans sa chair aussi, était malheureux, inquiet, profondément inquiet aussi pour elle. Il y a des situations comme ça où il n'y a pas de solution comme ça et je pense que c'est en parlant qu'ils vont trouver eux-mêmes une possibilité déjà pour eux peut-être de sortir de la peur. Des réactions encore, Paul, qui sont arrivées pour Sophie ?
Ah oui, par exemple, Joël Armène qui dit non seulement cet homme vous aime, vous respecte, il a peur de votre maladie, de vous perdre, ouais. Et il ne supporte pas de vous voir souffrir. Et Dominique, qui est épileptique, qui vit ce vide affectif, c'est la peur qui domine, hein, dit Dominique. Bien expliquer la maladie, ses moindres détails, c'est important. L'épilepsie, c'est un mal qui a toujours fait peur. Il faut parler, courage, c'est primordial. Je suis solidaire avec vous, vraiment de tout cœur, écrit Dominique.
Oui, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous dire on aimerait pour eux vraiment qu'ils trouvent quelque chose que c'est pas simple parce que c'est vrai qu'on sent un amour très profond et très sincère. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui, je vais bien, merci. Et vous ?
Bah écoutez, ça va, je dormais un petit peu, mais bon, je me suis réveillé quand même pour vous parler.
Ah bah je suis désolée Jacques, alors,
on a perturbé votre sommeil.
C'est vrai qu'il est en plus un peu plus tard que d'habitude, parce qu'il est minuit 44, bientôt 45. Et il y avait du foot ce soir, donc comme on a pris l'antenne à 23h30, on est à vos côtés jusqu'à 1h. Ce qui ne vous arrange pas forcément, parce que mon pauvre, vous étiez dans les bras de Morphée.
Oui, oh, bah, écoutez, pour la France, je me lève. Hein.
Oh, bah, comme ça. Pour la France, vous avez dit ?
Non, oui, c'est ça, oui. C'est... J'ai beaucoup d'humour, hein, mais enfin...
D'accord.
Voilà, donc je m'appelle Jacques, je suis de Bretagne.
Oui.
Et
bienvenue,
puis, voulais...
Jacques de Bretagne.
Voilà, c'était pour un peu parler de mon histoire que
oui.
Je pense qu'actuellement, on est beaucoup à se plaindre de beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que la vie n'est pas facile, hein, je comprends très bien. Et moi, c'est pour vous parler un petit peu de mon histoire. Donc, il y a 3 ans et demi, je faisais 122 kilos. C'est
oui.
Énorme, hein. Je fumais énormément.
Oui.
Énormément. Ça a été jusqu'à 3 paquets par jour. Hein.
Oh là là.
Oui. Oui.
Ah oui, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est fou, hein. C'est... Enfin, je... Voilà, quoi. Et j'étais un peu suite à une... une séparation, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, tomber un peu dans l'alcool, quoi. Et,
oui, c'est tout ça après une séparation ou...
Voilà, ouais, voilà.
Ça, vous étiez enfin, mal et donc beaucoup l'alcool. Ça va ensemble, hein, parfois, l'alcool, le tabac.
Tout, tout,
oui. Oui, les addictions, ouais. Oui.
Tout est lié.
Et le poids, parce que je ne sais pas, vous aviez quel âge il y a 3 ans et demi,
Jacques? Ben, j'avais. J'ai. 47, quoi.
47 ans, vous avez. Et vous avez toujours été corpulent ou c'est aussi là, vous, après la séparation
Bah, si vous voulez, donc, j'ai été opéré du dos en 2010.
Oui.
Et donc, bah, j'ai perdu mon emploi, hein. Parce que c'est comme ça, je travaillais dans l'agroalimentaire et puis j'ai perdu mon emploi.
Ah oui.
Ouais, ben, vous savez, faut pas croire, hein. Quand on peut porter des choses, ben on met la porte. Hein. Oh, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est, enfin, c'est pas, j'ai pas à me plaindre, mais bon.
Bah si, quand même, si, parce que
ouais.
C'est peut-être aussi votre travail qui vous avait créé
partie,
ces
oui.
problèmes aussi ouais. articulaires, mais enfin, au niveau voilà. du squelette, donc si.
Oui, oui.
Si et... le travail est un peu abîmé aussi, hein, le corps. Hein.
Voilà.
Ah, oui.
Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, séparation en 2013, descente à vraiment aux enfers, ouais.
Oui.
Ouais.
Et oui, opération en 2010, vous perdez votre emploi. Et 2013,
oui.
vous perdez, vous séparez, ça fait beaucoup.
Oui, hein. Oui, oui.
Oui,
oui. Et donc, moi, je voudrais dire que le tabac et l'obésité, ça fait pas très bon ménage, hein.
Bah, le tabac fait pas bon ménage avec beaucoup de choses.
Ah,
mais oui.
Je pense que ceux qui fument, ceux qui m'écoutent, je ne pensais pas que ça pouvait avoir des conséquences aussi loin aussi. Quoi.
Ah bon, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence?
Alors, opération du cœur en... Ah, pas opération du cœur, le dos en 2010. 2011,
oui.
Une atteinte de boucher, ça commence.
Ah oui, oui. Oui.
Voilà.
Oui.
C'est pas rien. Hein.
Ben non.
Un ou deux ans après, on m'a mis une pile, ouais.
Ah oui.
Ouais, quand même. Hein.
Ah oui, oui, jeune. Oui, 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 bien sûr.
Non, mais vous voyez un peu le délire, quoi.
Oui, oui.
Et donc, ça continue, puis staphylocoque doré sur la pile après.
Oh là là, c'est pas vrai. Je savais pas qu'un staphylocoque peut aller sur une pile.
Ouais, c'est rare, hein.
Bah oui, je pensais que c'est pas un environnement pour lui sur lequel il aime se développer. Enfin, il y a tout autour, quoi.
Voilà, mais apparemment,
oh
c'était...
Là là.
Oui. Oui, oui. Donc...
Oui, vous avez enchaîné les catastrophes, quoi.
Ouais, oh, enfin, c'est pas... Bah, disons que j'en ris un peu, enfin, j'en ris...
Aujourd'hui,
oui.
Parce que vous allez mieux, ça semble être derrière vous, mais bon, sur le moment, je comprends qu'à un moment... Et malgré, c'est ça, vous parlez, bon, intervention du dos, vous perdez votre boulot, artère de boucher, problème, vous vous séparez, et c'est à ce moment-là que vous étiez mis à fumer 3 paquets et demi.
Oh, je fumais depuis longtemps déjà.
Ah oui,
beaucoup,
d'accord,
hein, mais
d'accord.
Peut-être que je fumais un petit peu...
Un petit peu plus encore, ben oui, quand on va mal. C'est ça, alors parfois c'est un gros problème de santé qui peut faire arrêter prise de conscience.
Et puis donc, en 2016, je crois, je vais chez le cardio, j'avais 46. Et il me dit, il regarde mon cœur, et puis il me dit, ben, si vous continuez comme ça, ben c'est fini.
Oh là là, merci docteur, je vous dois combien?
Ben, je sais plus.
Oh non, je préfère en rire parce que c'est... Waouh, c'est brutal.
Mais bénéfique.
Ah bon, ça a été bénéfique pour vous. Ben, tant mieux, parce que ça n'est pas pour tout le monde, mais tant mieux. Vous, ça a été un... Ouf, là, vous êtes dit...
Je pense que...
C'était un électrochoc, quoi. Vous êtes dit, il faut que j'arrête, il faut que je fasse quelque chose.
Bien sûr,
oui.
Je pense que...
tant mieux, alors.
On peut rester malade, on peut rester à moitié déprimé, on peut être resté à moitié... Et puis on peut rester comme ça toute sa vie. Hein,
oui.
Si on ne vous le dit pas.
Oui, c'est vrai. Oui, je comprends. Ça a été au fond un déclic.
Alors il passe, parce que je continue, hein, il passe un appareil, il me dit, ben, écoutez...
Oui.
Posez-vous la question, comment vous allez faire pour vous en sortir?
Oui, d'accord. Oui, il a ouvert quelque chose.
Il a ouvert quelque chose. Il
oui.
A ouvert, hein.
Oui.
Et il me dit donc je réfléchis, je sors de là, j'étais un peu catastrophé, quoi. Enfin, j'étais.
Mais oui, je comprends. Oui.
Et puis, donc après, je suis parti en cure cardiaque.
En cure, il y a des cures cardiaques.
Bien sûr, hein, de réadaptation cardiaque. Mais
ah, je ne savais pas. D'accord.
Donc, on vous réapprend à manger.
Oui.
Bon, j'étais un peu monté sur le vélo, un peu pour essayer de faire l'impôt. J'avais perdu 2 ou 3 kilos. Et puis, tout bonnement, je me croyais à moitié dépressif. Enfin bref, le délire. Quoi.
Oui, bah, enfin, non, mais non, c'est pas un délire. Parce que, entre tous les graves problèmes de santé, vous avez perdu votre boulot, vous perdez votre femme. Enfin, il y a de quoi être très déprimé.
Enfin, vous savez, avoir perdu ma femme, je préfère être parti. Hein, comme ça, c'est pas plus mal.
Ah, ben c'est bien que vous... Ben, je suis bien contente de vous entendre dire ça aujourd'hui.
Ben, écoutez,
mais
c'est le
moment. Oui, vous êtes en vie, vous êtes apparemment, vous vous êtes repris en main. C'est-à-dire que vous avez pris soin de vous à un moment donné, vous êtes dit.
Bien sûr, bien sûr, c'est important, mais c'est pour ça que je pense que dans la vie, il faut vivre au moment présent, le moment qui se présente à nous.
Oui.
Et puis, il arrivera ce qu'il arrivera. Qu'est-ce que je vous dis, c'est.
Ben non, en fait, vous nous dites l'inverse aussi.
Oui, peut-être.
Parce que vous auriez pu. Là, c'est un peu fatalité. Bon, alors qu'à un moment. Ce médecin qui a eu des paroles choc, mais quand même avec une écoute, en disant qu'est-ce que vous pourriez faire au fond pour aller mieux.
Bien sûr.
Il en trouve quelque chose et dire est-ce que je continue dans quelque chose d'un peu autodestructeur.
Bien sûr, bien sûr.
Ou
tout à fait. Je suis d'accord
est-ce
avec
que
vous.
Au fond je vais du côté de la vie et j'essaye de remonter la pente et de
bien
m'accrocher.
Sûr.
Et...
Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord avec vous.
Et de prendre soin de moi, c'est une expression qu'on dit beaucoup, mais là, ça prend tout son sens quand on vous écoute.
Donc, je continue, donc je sors de là, je vais en cure cardiaque, je commence à perdre. On me dit, voilà, je faisais 1m26 de tour de taille, je ne sais pas si vous voyez.
Ah oui, je croyais que vous faisiez 1m26 de taille.
Non, non, je mets 86,
là, je me disais, oui, d'accord. Non, non, je n'arrive pas à réaliser, mais effectivement, ça fait, oui. Ça
les gens prennent la mètre, ils vont chez eux. Hein. Et, oui. Je sors de la cure cardiaque, mais c'est pas assez. Bon, j'avais perdu un petit peu. Et puis, j'ai commencé après, j'ai continué. Parce qu'on avait appris, hein, les choses de base. Hein. C'est pas du tout, c'est un régime, c'est pas du tout dur, je peux vous dire.
Ah bon?
Bon, il faut s'accrocher, bien sûr. Et donc, je me suis fixé un cap, il fallait que je perde. Déjà que j'arrête de fumer. Et j'arrête l'alcool. J'y vais tout par objectif. Hein. C'est, dans la vie, quelqu'un qui boit.
Oui.
Pourquoi ils n'arrêtaient pas par objectif? C'est pas interdit. Les gens, ils arrêtent du jour au lendemain, des fois, et
c'est
puis
vrai.
Ils recommencent. Vous voyez ce que je veux dire, quoi,
oui, mais quand on doit arrêter de fumer, arrêter de boire et moins manger, waouh, ça fait beaucoup.
Enfin, bien sûr, c'est même dangereux. Hein. Bien sûr, je le sais.
Mais parce qu'en plus, je trouve que y a, par rapport à la nourriture, c'est vrai, bon, la cigarette, l'alcool, on peut s'en passer, et ça ne diminue en rien le mérite de tous ceux qui, à un moment, arrêtent. Mais la nourriture, c'est ça qui est compliqué. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire « j'arrête la nourriture » parce qu'on meurt. Donc, ce n'est pas si simple que ça, faire un régime. Mais vous avez trouvé la force à ce moment-là. Tout d'un
j'ai
coup...
trouvé la force, oui. Quelqu'un qui obésité sévère, je veux dire, il a la réserve, hein.
Mais vous avez besoin de manger quand même au quotidien. Enfin...
Ouais, mais j'ai donc. Je me suis fixé un cap, 2 kilos par semaine. Comme ça, c'était clair.
2 kilos par semaine.
Tu vas perdre 2 kilos par semaine.
Oui.
C'est violent, hein. Donc, j'ai commencé discrètement en vélo d'appartement, parce que bon, je ne me voyais pas aller sans vélo sur la route.
Oui.
Et puis, ça a marché.
Oui.
J'ai arrêté le tabac par objectif, je fumais 14, enfin, admettons 14, 12, 13, enfin,
Je
diminuais tous les jours.
Oui.
Et ça a été très très dur, hein. Le tabac c'est violent. Hein.
Oui.
Et faut pas croire. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est une sacrée drogue. Oui.
C'est une sacrée drogue, c'est la pire, je crois. Hein. Et donc ça a marché.
Oui.
Voilà, 2 kilos par semaine.
Waouh.
Donc, pour arriver à 80... J'étais descendu à 88, je crois.
88 kilos?
Ouais.
Ah ouais, bah dites-moi.
C'était en deux... Je sais plus, j'ai dû commencer... j'avais perdu un peu en cure cardiaque, et puis j'ai continué comme ça.
Une fois rentré chez vous, vous avez pu vous tenir à cela. Et c'est bien parce que sans trop vous fatiguer, c'était raisonnable, 2 kilos par semaine, et sans souffrir trop, au fond, parce qu'il faut se faire à manger mieux, en fait.
Ah ben, si je peux vous dire, j'en ai mangé de la salade. Hein.
Oh là là. Ouais.
Ah, mais j'en ai mangé, hein.
Et ça allait? Enfin, ça, je vous pose la question parce que la salade, ça remplit l'estomac, mais...
Ouais, mais J'ai mangé équilibré, hein, j'ai mangé des viandes blanches, j'ai mangé.
Oui, c'est ça.
Enfin, j'ai pas fait n'importe quoi, quoi. Enfin, il fallait manger. Enfin, je sais pas, j'ai mangé des nouilles, mais.
Oui, oui. Ben, vous aviez, il y avait derrière une détermination farouche, hein, Jacques. Hein. Il y a pas de mystère, hein.
Oui. Donc, je suis revenu au mois de septembre voir le cardio. Et je lui remercie toute ma vie parce que sur une phrase, ben, il a tout changé, quoi.
Ah, vous êtes et alors quand vous êtes revenu le voir, donc vous aviez minci, vous aviez arrêté et vous êtes venu pour lui dire.
J'étais convoqué pour une visite de contrôle.
Et alors il a dû. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu arriver comme ça?
Il était à la bourre au départ et.
Oui.
Et il était à la bourre et puis dépêchez-vous.
Oui.
Et puis il était derrière moi et puis arrivé dans le bureau, il me dit, on dirait un autre homme.
Oui.
Oui. Wow, c'est un sacré moment. Hein.
Oui.
Il était
ému au fond.
Moi aussi.
Oui. Ben oui, je comprends.
Il tremblait sa feuille et puis. Il a dit on dirait un autre homme.
Oui.
Je me suis dit t'en as sauvé un, c'est lui quoi, c'est moi quoi.
Oui. Vous avez dû lui faire un bien fou à votre cardiologue.
Tout à fait. Ouais.
Vraiment, parce que il en voit, comme vous dites, il peut pas sauver tout le monde. Mais là, de se rendre compte que ses paroles, ou peut-être après il s'est dit, j'y suis peut-être allé un peu dur, et puis finalement non, il y a eu quelque chose, et de voir que vous aviez trouvé la force, quoi. Et...
Ouais, oui, ça a été. Mais après, voilà quoi.
Et puis, aujourd'hui, ou alors.
Donc, mais par contre, faire un gym, c'est vrai pour moi, j'ai pas trouvé dur. Mais le plus dur, c'est sur. Faut pas croire qu'on a fait un régime qu'on a gagné, quoi.
Oui, c'est sur la durée, vous voulez
dire. Sur la durée, ouais, oui. Que beaucoup se trompent, quoi.
Oui.
C'est que, des fois...
Oui, parce que vous pouvez pas manger de la salade tout le temps, quoi.
Non, et après, moi, j'avais...
Faudrait manger un peu, oui, c'est ça.
Je m'empêche pas de manger de la salade, mais...
Oui, bien sûr.
C'est hyper grave, quoi. Mais il faut à peu près 3 ou 4 ans pour bien stabiliser le poids.
Oui, voilà. Oui. Après, mais là, vous y êtes aujourd'hui, alors?
Bien sûr, je suis à 89 kilos, là.
Oh là là, c'est incroyable, Jacques. Hein. Et
donc,
aujourd'hui, vous fumez plus
Je continue. Et je me suis réveillé un matin, je me suis dit, mais comment ça se fait, toi, que t'arrives à... Parce que moi je me suis toujours considéré comme un idiot parfait. Hein. Je peux vous dire...
Pourquoi ça?
Oh, parce que c'est comme ça. Hein. Mmh. Et j'ai donc... Donc, je regarde comment tu peux arriver à faire 3 ou 4 trucs. Alors, certains... ils font une chose, ils sont heureux, tant mieux pour eux. Hein. Mmh. Et là, je me suis intéressé au qui est actuellement la mode, les hauts potentiels. Mmh. Les hauts potentiels. Et je ne savais pas que j'étais haut potentiel.
D'accord.
J'étais resté comme ça pendant des années sans savoir que j'étais.
Ça a pu créer un décalage, une hypersensibilité,
voilà,
finalement beaucoup de souffrance. Et...
Voilà.
Oui, comme il a raison, votre cardiologue, vous êtes un autre homme finalement. Vous êtes aujourd'hui parti à la découverte de vous-même et quelle volonté. Franchement, moi je suis admirative de votre parcours, de votre volonté, Jacques. Et il y a aussi des auditeurs, Théodora, elle dit l'humour, quand on vous écoute aussi, c'est un moyen d'avoir une bonne santé. Quand on veut vivre, tout est possible. Théodora, elle vous comprend très bien parce qu'elle dit l'an dernier, j'ai failli mourir, j'ai perdu 43 kilos. Tout est possible quand on veut vivre. Elle dit bravo vraiment à Jacques, je l'applaudis, bravo à lui. Et il y a Evelyne de Lisieux aussi qui dit quelle force, quelle détermination, chapeau à vous. Un petit message, Paul.
Juste beaucoup. Les Jacques qui parlent aux Jacques parce que qui écrit vous faites preuve d'une belle énergie, votre prise de conscience et votre bon sont remarquables. Bravo. Et la chauvine, Sylvie, qui dit c'est un passe breton. Bravo, bel exemple de persévérance. Drôle en plus,
oui.
Un franc-parler extra.
Oui. Vous avez bien fait. Vous voyez, moi je culpabilisais, on l'a réveillé, le pauvre Jacques. Ça valait le coup. Rendormez-vous vite maintenant. C'est important aussi pour la santé, mais ça valait le coup de vous entendre. Et bravo, vraiment, pour votre volonté. Je vous embrasse, Jacques.
Bien sûr, et
belle nuit à vous. Merci pour ce message d'espoir. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Et puis on revient ce soir aux horaires habituels, 22h.